Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche que je vais consacrer aujourd'hui au printemps des oiseaux en Basse-Marche. Ce sera notre 175e émission et notre 135e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Charles Sylvestre, Pleine Terre. Louis Peignot, Au relais de l'étang vert. Rachel Fournon, Un poème extrait des mots en campagne. Paul Lavergne, Un poème extrait du Zodiaque et la ville. Michel Beau, Un poème extrait de Jongle Rime. Et Héloïse Mozzani, Le livre des superstitions.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Charles Sylvestre, dans le livre d'un terrien, consacre un chapitre à l'amitié des oiseaux. Les protecteurs des oiseaux sont innombrables et pourtant, beaucoup se plaignent de ne pas entendre aussi souvent qu'autrefois leurs beaux chants dans la campagne. On assure qu'ils sont moins nombreux. Nul ne doute de leur rôle primordial, purifier le sol de la vermine pullulante, semer des graines et enchanter la solitude. Le paysan reconnaît son utilité, sinon sa grâce et son charme incomparable. Il sait bien que le potager, le champ de blé, le vignoble sont défendus par eux sans relâche et que leur bec happe des myriades de larves, d'insectes et de chenilles qui dévasteraient tiges et racines. Il sait tout cela et trop souvent, il ne corrige pas, comme il le faudrait, ces enfants qui vont à la recherche des nids les jeudis et les dimanches, grimpent aux arbres, fouillent les haies. Qu'un polisson apporte à la ferme des œufs de mésange ou de rossignol, des nids de chardonneret, le père hésite à le réprimander vertement. On rougit de plaider pour les oiseaux. Grâce légère du monde, joie, vivante couleur, frisonnement du soleil et de l'air. Dans leur moindre chant, on devine un battement d'ailes, une liberté mystérieuse. Ils donnent aux arbres la parole qui charme sans fin le voyageur et le sédentaire. Le terrien leur prête un langage et voit en eux les annonciateurs des saisons. Au pinson allègre et vif, il fait dire « je la tiens, la cerise ». À la caille, avant la moisson, j'ai le sac, je n'ai pas le blé. J'ai le sac, je n'ai pas le blé. Il se plaît à les regarder comme des travailleurs magiques et même, il leur trouve des métiers. Pour lui, le chardonneret est un quart d'heure, le loriot un tisserand, le martin pêcheur, un piocheur qui sait creuser les puits, les hirondelles, des bâtisseuses. Il admire leurs menus globes de terre mâchée suspendus aux poutres des étables. Au roucoulement de la tourterelle, il dira si demain le temps sera clair ou pluvieux. Il accorde à ses amis emplumés des qualités de prévoyance et de courage. Il s'écrie « gai comme un pinson, gentil comme une alouette, fin comme un merle ». Il connaît leur vie, tandis qu'il gardait tout enfant les troupeaux, la solitude l'obligeait à observer leurs allures. Il apprenait que les plus grands frappaient l'air par battements lents et profonds, ainsi que les rames frappent l'eau d'une rivière. Il entendait les coups de bec du pivert trouant le tronc d'un vieil arbre et le creusant afin d'y poser ses œufs. Il savait ainsi que cet arbre avait un cœur pourrissant et qu'il était plus qu'à moitié mort. Il découvrait les nids en coupe, en gobelet, des passereaux chanteurs. Le nid du pinson, si parfait, si charmant, formé de mousse et décoré de lichen. Le nid du roitelet, qui ressemble à un petit vase fermé, sauf un orifice de vol. Et celui du rossignol bâtard que défend une mince écorce de bouleau. Et tant d'autres, aux proportions ravissantes, où la nature révèle un art divin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au coucou, au merle, à l'hirondelle et au rossignol. Le coucou est l'oiseau qui dit son propre nom. De nombreux peuples le considéraient comme l'oiseau des âmes, comme un oracle ou comme le messager du printemps. Le nombre de cris du coucou que l'on entend est, d'après la croyance populaire, celui des années qu'il faudra attendre avant de se marier ou, selon les cas, des années qu'il nous reste à vivre. Dans certaines régions, il est d'usage, quand on entend le cri du coucou, de faire tinter des pièces de monnaie. Dans ce cas, selon la superstition, on ne manquera jamais d'argent dans l'année. Nous allons nous intéresser au coucou en basse marche avec deux textes. Le premier de Louis Peignot, extrait du relais de l'étang vert, et le second de Charles Sylvestre, extrait de Pleine Terre.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici comment Louis Peignot nous raconte la vie du coucou dans son ouvrage au relais de l'étang vert. Depuis quelques jours, nous les attendions, ces deux notes qui viennent ce matin de retentir sur le vallon. L'hiver pourtant s'attarde et parfois encore quelques flocons de neige dansent dans le ciel gris de ces premiers jours d'avril. De tous nos compagnons de l'été, celui qui, le premier, nous avait abandonnés est le premier à nous revenir. Pourquoi cette hâte? Alors que la plupart de nos émigrants de l'automne sont encore là-bas, bien loin, sur les chemins du retour. C'est que le temps des amours vient de sonner. Déjà, les fidèles, restés auprès de nous tout l'hiver, ont commencé à bâtir. Le coucou ne l'ignore pas. D'étranges, de curieuses raisons le poussent à être là au plus tôt. Ce célibataire veut se chercher une compagne. Ses premiers chants sont des plus vibrants, tels ceux d'un garçon pharo. Sur le vallon, le mâle coucou va lancer des annonces matrimoniales. Matrimoniales, à dire vrai, non. Il n'a cure des liens conjugaux. S'il nous revient, c'est pour une partie de plaisir, prolongée tout au long du printemps jusqu'à la mi-juillet, quand la première javel s'étale sur les sillons des champs de blé. Disaient chez nous les anciens. Pas besoin d'un domicile conjugal. À quoi bon même un nid ? Coucou par-ci, coucou par-là, de toutes parts résonnent les appels amoureux. Et voici un couple formé avec comme seul lien le plaisir d'un beau printemps sans le souci des enfants à élever. Demoiselle Coucou, de son côté, s'agite, va, vient, volant très bas, rasant les bruyères et les buissons. Que cherche-t-elle ? Elle a gardé le souvenir du lieu de sa naissance et elle voudrait retrouver la famille qui l'éleva l'an passé pour lui confier à son tour, comme le fit sa mère, le fruit de ses vagabondes amours. Ce nid de rouge-gorge ? Ce nid de fauvette ? Ce nid de merle ? Qu'importe, en définitive, si elle ne fait pas couver son œuf par la même espèce qui la couva. Avant tout, il faut le déposer dans le nid qui a été repéré et choisi très vite pour qu'il éclose en même temps que toute la couvée. Par quel mystère la nature se fait-elle la complice de ses amours libertines ? L'œuf de la demoiselle sera petit, bien que de lui doive sortir un gros rejeton encombrant et difforme. Il va éclore un ou deux jours plus tôt que ses petits voisins. Son large bec sera le premier à s'ouvrir pour gober les chenilles que les parents nourriciers vont sans arrêt, du soleil levant au crépuscule, porter vers leur nid minuscule. Arquant le dos, écartant les membres, l'intrus va faire tomber du lit commun plusieurs de ses petits frères. Dame Coucou va de nouveau pondre et confier à un autre nid choisi par elle l'œuf de ses amours volages. Et comme à chaque naissance, 5 ou 6 oisillons sont ainsi sacrifiés, c'est une vingtaine d'entre eux qui périssent pour que vivent 4 ou 5 jeunes coucous dont les parents n'ont nul souci. Ils ne se soucieront même pas d'eux quand viendra le temps de partir vers les lointains pays du soleil où les jeunes ne sont jamais allés. Mais ces forêts équatoriales, plus loin encore, ce tropique du sud, les coucous nés dans notre vallon limousin sauront les atteindre seuls. Et l'an prochain, vers le 1er avril, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, à leur tour, comme leurs parents cette année, ils reparaîtront au lieu qu'ils les ont vus naître. Comme leur mère, ils voudront arriver à temps pour repérer le nid d'une bonne couveuse avant qu'elle ait fini de pondre pour y déposer leur œuf.
Là-bas dans la clairière, le coucou a chanté. Réveille-toi, bergère, le coucou a chanté.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Pleine Terre, Charles Sylvestre, lui aussi, nous raconte la vie du coucou. Le coucou fait rire les paysans. Son seul nom éveille pour eux maintes farces mille tours. Ce diable voltige dans les histoires gauloises. Il est vrai qu'il ne donne pas de bons exemples. On le dit fainéant, chapardeur, insaisissable et presque invisible. Il faudrait être malin pour le tenir au bout d'un fusil et plus encore pour l'abattre. Bientôt, il reviendra dans nos campagnes après avoir fait un voyage en Afrique ou en Asie. Il vit seul et ne se soucie pas de bâtir un nid. Il habite dans des arbres creux. C'est un fort bel oiseau au bec aigu et légèrement recourbé, au plumage cendré et bleuâtre sur la gorge et le jabot. On assure qu'il répète une vingtaine de fois son chant bizarre. Parfois, ses appels sont précipités comme s'il n'avait pas besoin de reprendre souffle. Mais ce qui est le plus singulier, c'est une sorte de « ha ha » qui suivrait son chant boiteux comme font certaines gens après avoir jeté quelques sarcasmes. Peut-être est-ce là une remarque de mélancolique qui se promène dans la campagne d'avril et rumine de vieux chagrins. D'autres disent qu'un tel oiseau peut chanter tandis qu'il volette, ce qui expliquerait l'étrangeté de son cri qui s'en va, revient, oscille, proche, lointain, dans le même moment par des temps de pluie ou de soleil. Sous un ciel voilé, il éveille une tristesse, on dirait l'appel étouffé d'un sorcier qui aurait le pouvoir d'être invisible. S'il chante, posé sur une branche, on a remarqué qu'il a les ailes basses, le cou gonflé. Alors, il fait de petits saluts à droite et à gauche, à la façon des tourterelles. Celui qui surprend son vol pense aux allures sinistres des oiseaux de proie. Coucou en avril, épervier en juillet, dit le proverbe. Il n'est pas étonnant qu'il ait suscité beaucoup de légendes. Il est très utile aux paysans. Il fait un grand massacre de ces monstrueuses chenilles poilues que d'autres oiseaux ne peuvent manger. Il est friand de phalènes et de hannetons. À la manière des chouettes, injustement détestées, il rejette en pelote les innombrables insectes qu'il dévore. La pelouse frais tondue sert de trampoline aux merles et les voici qui bondissent entre deux sabres d'iris. Ils chassent les menus vers qui ont été délogés par la tondeuse à gazon. Les merles sont de fins gourmets et des chanteurs inspirés. C'est roulade sur roulade, pirouette sur pirouette, comme enivré par l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, ces DJ d'un nouveau genre animent le bal du printemps. C'est Rachel Fourlon qui nous parle ainsi du merle moqueur.
En mars, le merle gai siffleur chante dans les pruniers en fleurs. Chante dans les pruniers en fleurs.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Restons chez Louis Peignot dans son relais de l'étang vert. Il nous parle maintenant, lui aussi, du merle. Mais voici que les jours allongent. Dès la fin de février, on se reprend à siffler. Le temps des noces va bientôt arriver et nous sommes les témoins de ce miracle. Notre compagnon solitaire et silencieux se mue en un drille joyeux. De l'aube au crépuscule, il n'arrête pas de siffler, de chanter. Sa brune merlette est sur le nid et il faut bien la distraire. Après cette première nichée, vite une autre dans le buisson d'en face. C'est le père qui va finir d'élever les premiers-nés de la nombreuse famille merle. Deux, trois couvées chaque année qui vont repeupler le vallon pour l'hiver prochain et l'égayer aux beaux jours qui viennent. George Sand, petite fille par sa mère d'un oiselier des quais de Paris, si accueillant pour tous les oiseaux, dont ses ombrages d'ormeaux de Nohant avaient pour le chant du merle une grande admiration. J'ai toujours aimé particulièrement le chant du merle. Moins éclatant, moins original que celui du rossignol, il se rapproche davantage de nos formes musicales et il a des phrases d'une naïveté rustique qu'on pourrait presque noter et chanter en y mêlant fort peu de nos conventions. On a dit du merle qu'il était le sonneur de cloches des champs. Une bête étrange vient-elle à passer ? La mère renarde qui regagne son terrier dans les halliers de Bramfant, le corbeau ou l'épervier toujours en quête d'une proie. Alors, dans les sous-bois et sur les hautes branches se mettent à retentir les sirènes d'alarme. Les pies et les geais criaillent sans arrêt, tandis que les merles lancent leur cri habituel, mais plus aigu et plus précipité. « Attention !» me dit l'ami qui m'a conduit à la croule un soir de la fin février. « Attention, quand le merle va s'arrêter de siffler, ne bougeons plus. » Et de fait, voici telles de grandes et souples chauves-souris, deux, trois, quatre bécasses qui, s'élevant de la lisière d'en face, passent en tournoyant presque au ras de nos têtes. L'heure de la bécasse, c'est le merle qui vient de la sonner. Le plus fidèle de nos compagnons du vallon se permet même de suivre le courant qui entraîne les gens de la terre à la ville. Il envoie quelques-uns de ses enfants de sa nombreuse famille faire les poubelles. Regardez-les qui sautillent, volettent, sans crainte, dans les rues des faubourgs, en quête de détritus, sous le nez des chiens jaloux, de ses concurrents inattendus. Et quand vient la saison des amours printanières, ils font leur nid en pleine ville, là où ils trouvent un jardinet à leur convenance, dans la glycine, dans la treille, dans le chèvrefeuille odorant et touffu. Et c'est le va-et-vient confiant des parents vers les larges becs toujours ouverts pour engloutir les chenilles du pommier. Puis, un beau matin, tout le monde s'envole.
Mon merle a perdu son bec, mon merle a perdu son bec, un bec de pâte trop bête marin. Car vas-tu, mon merle, car vas-tu, mon merle, chanter. Car vas-tu, mon merle, car vas-tu, mon merle, chanter. Mon merle a perdu sa tête, mon merle a perdu sa tête. Une tête de tête, trois têtes, un bec de pâte trop bête marin. Comme avais-tu, mon merle, comme avais-tu, mon merle, chanter. Comme avais-tu, mon merle, comme avais-tu, mon merle, chanter.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pour le merle, nous terminons avec ce poème, ce petit poème de Paul Lavergne. Sa tyrolienne au bec, il siffle des rengaines coupées par des motets qu'il débite à la chaîne. Et dans l'auberge rouge du cerisier qui bouge, entre pour s'enivrer, il boit, se gargarise des plus belles cerises. Il boit, sa queue frétille, il est noir, son œil brille, et il siffle des bêtises, saoul comme un charretier.
L'oiseau siffle dans les branches et sautille gai, plein d'espoir, sur les herbes de givre blanc. Pourtant il vente, il pleut à verse, l'herbe jaunit le Rhône bleu, et le sel entendu de Perse tient tous ses hôtes près du feu. C'est un merle chanteur crédule, ignorant du calendrier, qui rêve soleil et module, l'hymne d'avril.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
L'hirondelle, maintenant. Dans l'histoire, on ne faisait pas la différence entre les hirondelles de terre et de mer et les martinets. Selon la légende, elles s'envolent à date fixe vers le sud, où elles hivernent sans plumage. Elles sont fêtées comme des messagères du printemps dans les chants des Grecs anciens. Et le fameux proverbe « Une hirondelle ne fait pas le printemps » apparaît déjà chez Aristote et chez Aristophane. Les hirondelles sont aussi symboles de l'amour. C'est en tant qu'oiseaux de l'amour que les hirondelles bâtissent leur nid sous la proue du navire de Cléopâtre. De la même façon, dans Tristan et Iseu, c'est une hirondelle qui vient porter un cheveu de la belle aux cheveux d'or au roi Marc. À noter que l'homme qui recueillait la cendre d'une hirondelle en train de couver devenait irrésistible auprès des femmes. Au Moyen Âge, en raison de son retour annuel, l'hirondelle était le symbole de la résurrection et du printemps. En Chine, où elle est aussi le symbole du printemps, on prétendait qu'elle hivernait à l'intérieur d'un coquillage dans la mer. Notons que la tradition veut que lorsqu'une hirondelle niche sur une maison, elle annonce la venue d'un enfant, en tout cas la chance, le succès et une vie conjugale heureuse.
Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé trois petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons trois petits coups de bâton.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Concernant l'hirondelle, voici ce qu'écrit Charles Sylvestre dans Pleine Terre. Il plaît au paysan de voir au bord de son toit le nid terreux de l'hirondelle façonné en écuelle profonde où s'abritent les petits à tête noire et lustrée. On lui a dit que ces oiseaux volent à travers l'espace à la vitesse de 180 km à l'heure. Ils s'émerveillent de leur cercle, maintenant tranquille, autour de sa maison, qu'ils environnent de bonheur, selon le proverbe.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Deux courts poèmes maintenant sur l'hirondelle, le premier de Michel Beau et le second de Paul Lavergne. Bonjour, bonjour, dit l'hirondelle qui revient nicher sous mon toit. J'ai du printemps au bout des ailes et t'apporte des fleurs nouvelles. Je te suis fidèle, tu vois, merci, merci, dit le poète, de revenir auprès de moi, de l'autre bout de la planète. Et j'avais du bleu plein la tête, car l'hirondelle, c'était toi. Paul Lavergne maintenant. À coups d'aile pointue, j'enfile mon aiguille à losange, à rébus, je promène mon fil. À grand vol, je me glisse, à grand point, je coulisse. Et jusqu'à l'horizon, je faufile le ciel. Avec de noirs cirrus, avec de lourds cumulus, avec d'épais stratus et de joyeux nimbus, je carde un matelas, je pique un édredon pour ma mère la lune et mes sœurs les étoiles. Terminons notre chronique d'aujourd'hui avec l'oiseau au plus beau chant, le rossignol. Écoutons maintenant à nouveau Louis Peignot nous chanter le rossignol. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. La nuit de mai tombait sur le vallon, l'heure du recueillement et du repos était venue pour les humains, pour les oiseaux. Nos deux amis se préparaient à regagner les solitudes de Grandmont. Soudain, un chant s'éleva. Le rossignol, s'écrièrent-ils en même temps, tandis que leurs yeux s'illuminaient de plaisir. Quel artiste et quel solo. Un solo peut-être, dit Ligère, mais en fait, un concert véritable. Que d'instruments dont ce seul larynx. Lui seul remplit successivement toutes les parties de la musique. Il les distingue en maîtres. Il les coupe, puis il les assemble. Il chante par semi-brève, ensuite il développe 1000 crochets d'une seule haleine. Après, il fait la basse, la haute contre, le fausset. Il étend sa voix, il la coupe en fredonnant, il contrefait son chant, le changeant de diverses façons, il gazouille en lui-même. Enfin, il se tait. Puis, Il a des transports beaucoup plus violents quand l'écho lui répond. Il pousse tantôt tendrement, tantôt fortement, il se fâche, il se met en colère, puis il soupire. Dans un temps, il contrefait le hautbois, dans un autre, la flûte et la trompette. À lui seul, il est un véritable orchestre. Et Louis Peignot de citer Chateaubriand. D'abord, il frappe l'écho de brillants éclats du plaisir. Le désordre est dans ses chants. Il saute du grave à l'aigu, du doux au fort. Il fait des pauses, il est lent, il est vif. C'est un cœur que la joie enivre, un cœur qui palpite sous le poids de l'amour. Mais tout à coup, la voix tombe, l'oiseau se tait et il recommence. Que ses accents sont changés, quelle tendre mélodie. Tantôt ce sont des modulations languissantes, quoique variées, tantôt c'est un air monotone, comme celui de ces vieilles romances françaises, chefs-d'œuvre de simplicité et de mélancolie. Le chant est aussi souvent la marque de la tristesse que de la joie. L'oiseau qui a perdu ses petits chante encore. C'est encore le ton du bonheur qu'il redit, car il n'en sait qu'un. Mais par un coup de sonar, le musicien n'a fait que changer la clé. Et la cantate du plaisir est devenue la complainte de la douleur. À quoi bon parler plus longuement du rossignol ? Aucune gloire, aucune chance heureuse ne lui a manqué. Et d'énumérer tous ces panégyristes qu'il s'appelle Virgile, Ovide, Pline, Rousseau, Buffon, Lamartine, etc. Le nocturne du rossignol n'est pas une complainte, mais bien une élégie amoureuse écrite par un maestro passionné. Le rossignol ne chante pas seulement pour attendrir le cœur de sa maîtresse et charmer ses ennuis. Il chante aussi pour qu'on l'admire et pour qu'on l'applaudisse. Il chante pour faire taire ses rivaux, pour les écraser sous le poids de sa supériorité, pour les tenir à distance du canton qu'il s'est adjugé. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Le cœur gai d'être libre et amoureux. Ce n'est en tout cas pas un rossignol captif que les jeunes filles adresseraient cette prière ingénue. Rossignolet du bois, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler. Apprends-moi la manière, comment l'amour se fait.
Derrière chez nous, le rossignol y chante, nuit et le jour, il s'entretient d'amour, en répétant dans son charmant langage, les amours sont malheureux toujours. J'ai du chagrin, j'ai perdu ma maîtresse, j'ai du chagrin, j'ai perdu mes amours, j'ai rebouté quand je pleure et soupire.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche qui fut consacrée au printemps des oiseaux. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Louis Peignot, de Rachel Fourlon, de Paul Lavergne, de Michel Beau et d'Héloïse Mozzani. Pour les accompagnements musicaux, j'ai fait appel au groupe Maluzerne, la chorale Croque-Note, Vox Angeli, Asgard, au trio Baladin, aux musiciens Thierry Châtelain, Julie Vincent, François Badeau, aux chanteurs et chanteuses Nathalie Dessay, Annie et Jean-Marc Verzini, Marie Laforêt, aux compositeurs Louis Daquin et Clément Jeannequin, dont nous écoutons en ce moment le chant du Rossignol par le groupe Accordina. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.